L'actu sur un plateau.
La feuille de chou de Radio Larzac qui se cultive toutes les semaines.
Bonjour à toutes et à tous, comme toutes les semaines, on se retrouve pour l'actu sur un plateau le jeudi midi en direct et le vendredi à 19h pour la rediffusion. On va continuer de balayer l'actualité locale, qu'elle soit culturelle, politique, associative ou bien encore environnementale. Et cette semaine, on va s'intéresser au café associatif de Sainte-Afrique, le lieu-dit qui a subi une fermeture administrative en janvier dernier pour, je cite, « non-respect des règles liées au Covid ». Nous recevrons également en seconde partie de l'émission Charles Pioffet de Naturellement Simple à Saint-Laurent-du-Lévezou pour parler du contre-salon de l'agriculture. En effet, la Confédération Paysanne de l'Aveyron organise le salon à la ferme. Et comme ces dernières semaines, il y aura également quelques surprises. Une seconde chronique littéraire de Richard, mais également la première chronique musicale d'Hugo. Mais avant ce programme alléchant, en tout cas je l'espère, je vais d'ailleurs laisser la parole à Hugo et également à Basile pour l'agenda des trucs à faire sur le territoire.
Les rendez-vous de Radio Larzac.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'agenda des trucs à faire sur Millau et ses alentours en cette fin de semaine. Agenda bien chargé pour cette fin de semaine au Pic Vert. Jeudi 24 février, de 17h à 19h, retrouvez le traditionnel marché de producteurs sur le parking du Pic Vert. Vous pourrez y retrouver un large choix de produits frais et locaux. Suivi à 21h par un blind test spécial cinéma, venez avec vos amis défier vos connaissances dans cette animation gratuite et présentée par Nat Pika.
Vendredi 25 février à 17h30, toujours au Pic Vert, se déroulera le spectacle familial de magie, L'Octane Magie pour petits et grands. L'entrée est à prix libre, mais le nombre de personnes est restreint. La réservation est donc fortement conseillée. Puis à 19h, la soirée continue sur le thème de la magie avec un apéro magie en session close-up.
Mais dis-moi, Basile, c'est quoi une session close-up ?
Eh bien, c'est tout simple, c'est le magicien qui se déplace de table en table pour vous permettre de vivre la magie au plus près. Et bien sûr, c'est gratuit.
Et pour finir, avec le Pic Vert, samedi 26 février est organisée une soirée dansante avec l'association Millau Swing. Rendez-vous 20h30 pour une initiation gratuite qui sera suivie à 21h30 par le concert gratuit de Louisiana Stump.
La figure de l'enseignement musical de Millau, Philippe Valentin, professeur de collège et de lycée, prend sa retraite. Une retraite qu'il atteint après 40 ans d'enseignement à rendre la musique accessible au plus grand nombre. Pour célébrer son départ, une quarantaine d'anciens élèves, accompagnés par l'orchestre du lycée, viendront se produire sur la scène du théâtre de la Maison du Peuple pour remercier l'engagement de ce professeur. À l'heure où l'on nous annonce la réduction de la dotation d'heures au lycée Jean Vigot, cette soirée témoignera de tout ce qui serait sacrifié si l'abandon de l'option musique était confirmé. Et ce sera vendredi 25 février à 20h30 au théâtre de la Maison du Peuple, sur entrée gratuite dans la limite des places disponibles.
Le campus connecté de Millau vous ouvre ses portes du 25 au 26 février. Ce sera pour vous l'occasion de découvrir les coulisses de ce nouveau pôle de formation supérieure à distance, qui est placé juste en face de la médiathèque sur l'esplanade François Mitterrand à Millau. L'ouverture se fait le vendredi 25 février de 9h à 17h sur entrée libre et le samedi 26 février de 9h à 13h sur rendez-vous. Pour plus d'informations et pour réserver, n'hésitez pas à consulter leur site internet Campus Connecté Millau.
Pendant les vacances scolaires, les enfants de 6 à 12 ans peuvent participer à des visites créatives pour découvrir ou redécouvrir le musée de Millau et ses collections ou l'exposition du moment, s'en inspirer et créer des œuvres originales. Vendredi 25 février, Dino et compagnie, direction il y a 180 millions d'années. Une nature luxuriante et une mer d'azur vous attendent avec leurs animaux fascinants. Les fossiles de dinosaures et autres reptiles marins n'auront plus de secret pour les apprentis paléontologues. Vendredi 4 mars, petit gantier promenade parmi les gants de haute couture pour ensuite laisser libre cours à ses envies et créer un gant unique. Cuir de toutes les couleurs, rubans, boutons, strass, perles et autres, rien n'est trop beau. Ces ateliers s'adressent aux 6-12 ans au tarif de 6,50€ sur réservation. Les visites créatives se tiendront de 10h à midi.
Et pour finir cet agenda, mardi 1er mars, au Vieux Moulin à Millau se tiendra un stage de manga avec l'artiste Daf. Partez à la découverte de l'univers de Hayao Miyazaki, mangaka et grand réalisateur japonais contemporain. Figure de la poésie et avant-gardiste du féminisme et de l'écologie, il a impulsé un nouveau souffle aux films d'animation. Les stages se dérouleront de 10h à midi et de 14h à 16h. Et le tarif est à 25€ pour les adhérents et 30€ pour les non-adhérents. Pour rappel, c'est le 1er mars au Vieux Moulin et attention, l'inscription se fait avant le 26 février. Belle fin de semaine à tous!
Merci Basile, merci Hugo pour cet agenda de fin de semaine. Hugo, on te retrouvera un peu plus tard dans cette émission pour ta chronique musicale. Mais avant cela, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet en parlant d'actu social, mais sous une forme un peu plus artistique. On va donc tout de suite écouter la chronique littéraire de Richard.
Alors aujourd'hui, je suis arrivé encore avec un livre d'un copain que j'avais déjà lu, mais cet exemplaire-là, ça ne m'appartient pas. Je dois lui rendre d'ailleurs. C'est le livre d'Akimbe, Taz, Zone Autonome Temporaire. Temporary Autonomous Zone. Toujours dans les États-Unis, 20e, 21e siècle. Alors, okay, ce livre-là, il a la particularité d'être libre de droit. Alors, ici, il est édité aux éditions de l'Éclat en 2007. Mais je vais vous lire un petit peu comment il a été, sous quelle forme il a été publié pour la première fois. Le texte original a été publié en 91 par Autonome Media à Brooklyn aux USA sous le titre The Temporary Autonomous Zone. Le livre comprenait également d'autres essais plus anciens d'Akimbe qui ne sont plus reproduits ici. Selon les vœux de l'auteur et de l'éditeur, ce livre peut être librement piraté et reproduit sous réserve d'informations préalables auprès de l'éditeur pour ce qui concerne la traduction française, écrire à info libereéclat.net. Voilà, donc c'est un livre où il n'y a pas de droits d'auteur qui sont réclamés par Akimbe, qui est un activiste américain fin 20e, début 20e. Alors qu'est-ce qu'il entend par TAZ ? Zone autonome temporaire, ne se définit pas. Des utopies pirates du 18e au réseau planétaire du 21e, elle se manifeste à qui sait la voir, apparaissant, disparaissant. Pour mieux échapper aux arpenteurs de l'État, elle occupe provisoirement un territoire dans l'espace, le temps ou l'imaginaire et se dissout dès lors qu'il est répertorié. La TAZ fuit les TAZ affichés. Les espaces concédés à la liberté. Elle prend d'assaut et retourne à l'invisible. Elle est une insurrection hors le temps et l'histoire. Une tactique de la disparition. Le terme s'est répandu dans les milieux internationaux de la cyberculture, où point de passer dans le langage courant, avec son lot obligé de mépris et de contresens. La TAZ ne peut exister qu'en préservant un certain anonymat, comme son auteur, Akimbe, dont les articles apparaissent, ici et là, libres de droit, sous forme de livres ou sur le net mouvant, contradictoires, mais pointant toujours quelques routes pour les caravanes de la pensée. Voilà, ça c'était le 4e de couverture, édition de l'Éclat. Donc après, il va nous présenter ce qu'ils appellent des utopies pirates. des micro-sociétés vivant délibérément hors la loi et bien déterminées à le rester, ne fût-ce que pour une vie brève mais joyeuse. On va traverser les utopies pirates, on va traverser le net, le darknet, avec tout ce que ça comporte, les rêves partis, forcément, il va s'appuyer sur beaucoup de philosophes du XXe siècle, de Thoreau, en passant par Kropotkin, Deleuze, Guattari. Et donc, c'est un petit livre sur ce concept de zone d'autonomie temporaire. Le grand caractère de la tasse, c'est son invisibilité. Et donc, cette invisibilité, elle va se rencontrer dans les utopies pirates, Makhno en Ukraine pendant la révolution russe, l'Espagne anarchiste en 36. Elle va être aussi dans le Soviet de Munich pendant la République des Conseils en 19. Donc on traverse plusieurs expériences utopistes, temporaires, qui retombent dans l'invisible. Après, alors il parle aussi de notre responsabilité individuelle, qui est assez chouette. L'artiste n'est pas une personne particulière, mais toute personne est un artiste particulier. Voilà, à méditer. Et pour terminer, on va terminer avec la tirade du pirate Capitaine Bellamy. Daniel Defoe, sous le nom de plume de Capitaine Charles Johnson, écrivit ce qui devait devenir le premier texte de référence historique sur les pirates. Histoire générale des pillages et des crimes de pirates les plus fameux. Selon Patrick Pringle, dans Jolly Roger, le recrutement des pirates se faisait surtout parmi les sans-emploi, les esclaves et les criminels déportés. En haute mer, ils mirent le cap sur un nivellement immédiat des inégalités de classe. Defoe raconte qu'un pirate nommé Capitaine Bellamy tient ce discours au capitaine d'un navire marchand qu'il avait capturé. Le capitaine venait de décliner son invitation à se joindre aux pirates. « Je regrette bien qu'il ne vous rende pas votre chaloupe, car je déteste faire du tort à quelqu'un quand ce n'est pas mon avantage. Maudite chaloupe, nous devons la couler, et vous devez en avoir besoin. Quoique vous soyez un sale fouineur comme tous ceux qui acceptent d'être gouvernés par des lois faites par les riches pour assurer leur propre sécurité, car ces petits peureux n'ont pas le courage de défendre autrement ce qu'ils ont acquis par friponnerie. Mais soyez tous maudits. Maudit soit cette bande de fiefs et fripons, et vous le paquet de têtes molles au cœur de flamelette qui les servait. Ils nous dénigrent, les escrocs, nous dénigrent alors qu'il n'y a qu'une différence. Ils volent les pauvres sous couvert de la loi, alors que nous volons les riches sous la seule protection de notre courage. Ne voyez-vous pas que vous feriez mieux d'être l'un des nôtres, plutôt que de tourner autour de ces vilains pour du travail ? Quand le capitaine répondit que sa conscience ne le laisserait pas briser les lois de Dieu et de l'homme, le pirate Bellamy reprit « Vous êtes un coquin à la conscience diabolique, je suis un prince libre et j'ai autant d'autorité pour faire la guerre dans le monde entier que celui qui a une flotte de 100 vaisseaux à la mer et une armée de 100 000 hommes sur le terrain. Voilà ce que me dit ma conscience. Mais à quoi bon discuter avec des pantins pleurnichards qui permettent à leurs supérieurs de les jeter par-dessus bord à coups de pied au cul selon leur bon plaisir ?» Voilà, bonne lecture.
On est toujours dans l'actu sur un plateau sur Radio Larzac. On vient d'écouter Triliton de Sinwise. Et on va tout de suite rentrer dans le cœur de l'actualité. On ne pouvait pas finir la semaine sans une bonne dose de lutte. Le café associatif Le Lieu-dit à Saint-Affrique a subi une fermeture administrative en janvier dernier pour, je cite, « non-respect des règles liées au Covid ». Qu'en est-il désormais? Vont-ils rouvrir? Sous quelles conditions?
L'invité de l'actu social.
Et on est par téléphone avec Nelly du Lieu-dit à Saint-Affrique. Bonjour.
Bonjour Radio Larzac.
Avant de parler de la situation actuelle et de la fermeture administrative du mois dernier, peux-tu présenter un peu le Lieu-dit pour nos auditeurs qui ne le connaîtraient pas encore ?
Ouais, alors le Lieu-dit, c'est un café culturel associatif qui a maintenant plus de 12 ans d'existence. On a fêté exactement nos 13 ans cette année. Donc qui propose à la fois un bar, donc des boissons sous licence 2 et une quantité d'animation, que ce soit des concerts, des pièces de théâtre, mais ça peut être aussi des projections, des débats, des discussions, des ateliers pour enfants, des ateliers couture, enfin voilà, toute une gamme de ce qu'ont envie de proposer les différents bénévoles du Lieu-dit. Et on va aussi trouver au Lieu-dit donc une bouquinerie, donc c'est que des bouquins à très faible prix et des bouquins d'occasion du coup, ainsi qu'une friperie qui est complètement à prix libre. Et on a aussi lancé donc depuis les premiers confinements une soupe populaire du samedi. Donc le samedi, c'est le marché chez nous à Saint-Affrique, et donc à midi on propose un repas à prix libre accessible à tous, avec beaucoup de récup et principalement plutôt bio, voilà, tout cuisiné à la main. Et on voit aussi la particularité du Lieu-dit, donc il y a ce café culturel associatif, et on héberge aussi au sein des locaux une entreprise qui est une entreprise qui fait de la restauration, qui est aussi un des meilleurs restaurants de Saint-Affrique.
Et donc c'est une particularité, le caractère associatif du café?
C'est une particularité. Après, on n'est pas les seuls à faire ça en France. Hein,
oui,
on est
hein.
En réseau avec le réseau des cafés culturels associatifs. Donc, on commence quand même à être de plus en plus nombreux à proposer. La particularité de l'association, c'est qu'elle permet à tout le monde de s'investir et elle permet aussi de proposer des ateliers de manière très facile. En fait, il suffit de venir, de proposer son atelier, de le marquer dans la gazette et puis de le faire.
Au café associatif Le Lieu-dit, vous défendez un certain nombre de valeurs en particulier?
Bah oui, alors j'ai pas la charte sous les yeux, mais de mémoire comme ça, on va dire que ce qui est important pour nous, bah déjà c'est l'expérimentation. Je pense que c'est quand même quelque chose qui nous touche et qui fait qu'on se renouvelle sans cesse. Donc c'est voilà, permettre des espaces d'expérimentation à la fois pour des bénévoles, mais aussi pour expérimenter différentes activités. On va être attaché à tout ce qui est éducation populaire, donc sans rentrer dans les détails, on va dire l'éducation par et pour le peuple tout au long de la vie. Donc là l'idée, c'est plutôt d'avoir des espaces de débat, d'échange, d'information. Voilà, et puis une des valeurs qui nous touche beaucoup et qui nous a mis en péril avec cette question de passe sanitaire, c'est la non-discrimination. C'est-à-dire que nous, on accueille toutes les personnes sans aucune discrimination et aussi avec une attention toute particulière à ce qu'il n'y ait pas de propos racistes, sexistes, homophobes et tous les istes qu'on peut trouver. Et c'est vrai qu'avec cette question de passe, cette valeur de non-discrimination qui est essentielle pour nous, c'est-à-dire la possibilité d'accueillir tout le monde, eh ben, elle marche, ça tenait plus, quoi.
Oui, et du coup, tu peux peut-être revenir un peu sur les derniers événements moins heureux, notamment avec la fermeture administrative le mois dernier.
Pour resituer un petit peu le contexte, donc je vais pas vous réexpliquer les confinements, je pense que c'est un peu clair peut-être de tout le monde, mais cet été on s'est retrouvé avant de pouvoir réouvrir, donc voyant qu'a priori l'été ça allait être bon. On s'est retrouvés tous les bénévoles du Lieu-dit en se disant qu'on avait vraiment envie de proposer une saison culturelle forte, puisque ça nous avait énormément manqué, et ça a manqué, je pense, de manière générale, partout, mais particulièrement à la campagne, où il y avait vraiment quasiment plus rien du tout. Et donc, on s'est retrouvés à avoir une programmation avec 3-4 événements par semaine. Donc, quand même quelque chose d'un peu lourd. Évidemment, ça a un peu titillé au niveau des voisins, même si on s'arrêtait à 10h du soir, mais voilà, à un moment donné, les voisins, ils en ont eu un peu marre. Et en fait, de là a commencé un peu un espèce d'engrenage où les voisins appelaient la préfecture, appelaient les gendarmes, et donc du coup on a subi plusieurs visites de gendarmes qui à chaque fois constataient quand même que les voisins hallucinaient un petit peu et qu'on était pas en train de faire du tapage, on était simplement en train de proposer une animation. Oui, un concert, ça fait du bruit, enfin, un concert silencieux, ça ne marche pas.
Voilà, et un café silencieux, c'est difficile quand même.
Ouais, c'est un peu compliqué. Mais du coup, voilà, on a, ça a été un peu la première fois que on a eu les visites des gendarmes. Et évidemment, quand le pass sanitaire a été mis en place, et ben les gendarmes ont continué à venir un peu régulièrement en demandant est-ce qu'on demandait le pass. Donc nous, notre première posture, elle a été de dire nous, on discrimine personne, et encore moins sur une situation vaccinale. Enfin, on dirait, mais où on va, en fait? On va pas demander à quelqu'un s'il a le sida ou pas pour rentrer. Enfin, à un moment donné, on va pas demander à quelqu'un s'il est vacciné ou pas pour rentrer dans notre bar. Une de nos valeurs principales, comme j'ai dit tout à l'heure, étant la non-discrimination, ça nous paraissait complètement aberrant de devoir demander une justification vaccinale pour pouvoir consommer une bière. Donc on a expliqué ça aux gendarmes, on a tenté de dire qu'on était une association et que du coup, on a fait ça, hein. C'est-à-dire qu'on ne servait que les gens adhérents à l'association. Oui. L'adhésion étant un prix libre, il suffisait de venir et d'adhérer à l'association. Mais la préfecture nous a retoqué que ça ne marchait pas, puisqu'on était avec une licence de débit de boisson. Donc voilà, donc il y a des endroits où ça a marché, nous ça n'a pas fonctionné. Ils ont refusé de prendre en compte le fait qu'on soit une asso et qu'on demande aux personnes d'être adhérents pour pouvoir consommer. Et donc, à un moment donné, après 9 visites des gendarmes, en tout cas, il y en a 9 qui sont citées dans le papier qu'on a reçu pour justifier la fermeture administrative, la préfecture a pris la décision de nous fermer pendant 15 jours pour parce qu'on ne demandait pas le pass, parce qu'on demandait pas le pass aux gens pour pouvoir consommer.
Et c'est un risque que vous avez pris donc en connaissance de cause ?
On l'a pris en connaissance de cause. Puis après, en plus, nous, il y a un double enjeu. C'est-à-dire que le bar n'étant tenu que par des bénévoles, donc sauf l'été où on a pris un salarié, mais c'était parce qu'on avait une programmation trop chargée que les bénévoles n'allaient pas pouvoir assumer. Mais sinon, généralement, la plupart du temps, on fonctionne qu'avec des bénévoles. La tenue du bar, c'est des bénévoles. Et qu'en fait, peut-être la moitié de nos bénévoles n'ont pas le pass sanitaire. Et donc, du coup, non seulement on ne voulait pas le demander aux gens parce qu'on ne voulait pas être discriminant, mais en plus, on n'allait pas le demander aux bénévoles, sinon on perdait la moitié de nos bénévoles. Enfin, ça marchait pas du tout.
Et une association sans bénévoles, c'est compliqué aussi.
Et ouais, ça commençait à devenir compliqué quand on a fait un peu le tour. Bon, alors là, maintenant, on est beaucoup à avoir le pass, puisqu'on est beaucoup à l'avoir chopé dans la dernière vague, là.
Comme beaucoup dans la région, effectivement.
Voilà, mais on n'a quand même pas envie de demander à des bénévoles qui sont bénévoles, qui se ferment quand même la gestion d'un bar, le ménage, la gestion des personnes qui des fois sont alcoolisées et pas forcément très sympas, leur demander en plus de justifier d'un schéma vaccinal complet, comme dit le gouvernement. Donc voilà, ceci ayant assumé cette posture-là, on a pris une fermeture administrative de 2 semaines.
Mais malgré la fermeture, le lieu-dit n'a pas été complètement à l'arrêt. Vous avez continué d'avoir des activités pendant cette période?
Ouais, alors la particularité aussi que je citais au départ, c'est qu'il y a une entreprise. Donc que pour nous, le lieu-dit qu'on soit fermé pendant 15 jours, on va dire que économiquement, c'est pas hyper compliqué pour nous. J'ai dit, on est que des bénévoles, donc en gros, il reste les charges et le loyer à assumer. C'est pas des sommes importantes. Par contre, pour la restauratrice, en fait, comme ils ont refusé, alors on a essayé de les avoir, hein, la préfecture, mais ils ont refusé de faire la distinction entre le restaurant et l'association. Oui. Du coup, la restauratrice s'est aussi retrouvée fermée. Et elle, 2 semaines sans travailler, c'est pas la même chose. Donc pour elle, ça a été beaucoup plus compliqué. Mais voilà, pour nous, ce qui nous a vraiment heurté, c'est politiquement ce que ça veut dire. C'est-à-dire que un des derniers espaces de liberté qui restait à Saint-Afrique, dans lequel on pouvait trouver des fringues gratos, trouver des bouquins vraiment pas chers, parce que c'était aussi le pass applicable dans les bibliothèques. Donc du coup, nombreuses personnes ne pouvaient plus aller à la bibliothèque et venaient du coup au lieu-dit faire du troc de livres. Voilà. Et tout ce qui était rompre l'isolement, apporter du soutien aux gens, toutes ces choses-là, la préfecture, par sa décision de nous fermer, a fermé ça aussi. Parce qu'on s'était dit, nous on ferme le bar, c'est pas un problème, on s'en fiche de vendre de l'alcool. Mais par contre, on garde.
À consommer avec modération quand même.
Si on fermait le bar, voilà, on ferme le bar, donc on n'est plus un bar, donc est-ce qu'on pouvait maintenir des activités? Ils nous ont dit non. En fait, tout ce qu'on a essayé de faire, ça n'a pas été possible, quoi. Du coup, ce qu'on a décidé de maintenir, alors c'est pas le lieu-dit, c'est les amis du lieu-dit, oui, c'est une association qui s'est créée suite à la fermeture administrative.
D'accord.
Pour au moins organiser la manifestation auquel plus de 300 personnes ont répondu, ce qui est énorme pour Saint-Afrique. Oui. Et ensuite, pour aussi continuer à faire la soupe populaire, qui est quand même un moment très important de la vie sociale saint-africaine, de se retrouver tous ensemble après le marché à partager un bon repas. Et donc, on a fait sur la place de la mairie pour être visible, en disant nous, enfin, il y a des choses, on n'est pas sur une question de passe sanitaire, on est sur une question de prendre soin. Et nous, ce qu'on défend, c'est que nous, au lieu-dit, on prend vraiment soin des gens. Qu'en demandant un passe sanitaire, c'est pas ça, prendre soin des gens. Le soin, il passe aussi par les relations sociales. Et comme l'a dit, alors c'est même pas moi, c'est l'OMS, hein. L'OMS décrit la santé comme un état de bien-être physique, moral et social. Et à un moment donné, il n'y a pas que le physique qui rentre en jeu. Et nous, ce qu'on fabriquait au lieu-dit, c'était le bien-être moral et social. Et donc ça, on a essayé de maintenir en extérieur ce qu'on pouvait faire.
Et actuellement, ces activités en extérieur se poursuivent ?
Alors actuellement, il y a toujours l'assaut populaire, oui, qui se poursuit, que du coup on a décalé sur un petit coin de Sainte-Afrique un peu plus sympa, avec un jardin, un endroit pour les enfants pour qu'ils puissent jouer, voilà. Mais par contre, on n'a pas réouvert encore.
Oui.
On n'a pas réouvert parce qu'en fait, la problématique, c'est, on a pris 2 semaines de fermeture, mais en fait, si on réouvre et que les flics se repointent, ils vont nous remettre une fermeture, puisqu'on va toujours pas faire le pass.
Oui, parce que vous voulez continuer de garder les mêmes valeurs initiales du lieu dit.
Non, ben oui, on va pas aller sur nos valeurs. On préfère être fermé plutôt que de devoir demander à des personnes si elles sont vaccinées ou pas pour pouvoir participer à une activité, à un débat, à une projection, pour pouvoir boire son café tranquille le matin ou sa bière après le boulot. Enfin, non, on lâchera pas là-dessus. On est tous d'accord que pour nous, le fait de demander le pass sanitaire, c'est pas cohérent avec les valeurs du lieu-dit. Donc, tant qu'il y aura cette histoire de pass sanitaire, a priori, on réouvrera pas. Après, on va voir. Là, on est en train de décider. Dans une semaine, on a une grosse réu. Comme ils annoncent la fin du pass fin mars, début avril, parce qu'évidemment, le virus suit les élections présidentielles. Il est quand même trop fort.
Évidemment.
On se dit que bon, on va peut-être pouvoir réouvrir sans avoir les gendarmes derrière, puisque le temps qu'ils mettent la procédure en place, le pass sera levé. Donc, je pense pas que si on réouvre maintenant, là, début mars, ils vont nous renvoyer les gendarmes.
Vous avez donc quand même un petit peu d'espoir sur une réouverture du lieu ?
Ouais, c'est ça. Nous alentours de début mi-mars, quoi, dans ces eaux-là.
Et vous comptez refaire une saison culturelle comme tous les ans ?
Ah oui. Ah, on va pas lâcher. Hein.
Oui.
On n'a pas lâché pendant les. Enfin, entre chacun des confinements, c'est pas pour lâcher maintenant. D'autant plus avec l'actualité des présidentielles, qui est quand même un moment un peu fort de la vie politique française. Et généralement, on propose aussi, donc évidemment pas aux candidats de venir, enfin aux différents partis de venir proposer, mais plutôt nous des espaces d'échange sur qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce qu'on peut faire, comment en tant que citoyen et habitant d'un territoire, on peut s'impliquer là-dedans. Donc voilà, l'actualité justifie d'autant plus que cet espace-là soit réouvert, qui est quand même un des espaces et de sociabilité, mais aussi un espace de réflexion et de construction politique au sens noble du terme.
Oui, ça est partie des lieux de démocratie populaire. Hein.
Exactement, je pense qu'on pourrait aussi dire ça, ouais.
Et donc, il y a des soupes populaires qui sont prévues pour les semaines qui viennent ?
Oui, tous les samedis midi, entre midi et midi et demi, on va dire, on se retrouve au kiosque au jardin public. Donc voilà, c'est repas à prix libre, généralement il y a de la soupe. Dans pas longtemps, on va plutôt peut-être attaquer les salades quand le beau temps sera vraiment installé. Et puis après, il y a du fromage, de la charcuterie, des cakes, ça dépend de ce qu'on récupère, des quiches, plein de gâteaux parce que les copines aiment beaucoup faire des gâteaux.
Et c'est préparé par qui, donc, par les bénévoles ?
Par les bénévoles, ouais, les bénévoles de la soupe populaire. C'est des bénévoles du lieu-dit qui, du coup, proposent ça. Donc, aujourd'hui, c'est porté par les amis du lieu-dit, puisque le lieu-dit n'a pas le droit non plus de porter ça.
Effectivement, ça devient compliqué.
Ça devient complexe, hein.
Eh ben, merci Nelly.
Eh ben, merci beaucoup.
Et on le rappelle, donc, tu fais partie du lieu-dit à Saint-Af ?
C'est ça, exactement. Donc, Café culturel associatif de Sainte-Afrique, espace de vie sociale et de démocratie populaire. On va le présenter comme ça aussi.
Et ben, merci à toi et à bientôt pour la suite des événements. Et on va,
à bientôt Radio Larzac,
à
l'occasion peut-être à Sainte-Afrique.
Ouais, carrément. À bientôt, salut.
À bientôt, ciao.
Ciao. Et donc, on va poursuivre cette actu sur un plateau. On va dans quelques instants parler du salon à la ferme qui va avoir lieu en même temps que le salon international de l'agriculture de Paris. Parce que cette année, pour la deuxième fois, le salon de l'agriculture sera paysan et à la ferme sur l'Aveyron grâce à ce que met en place la Confédération paysanne de l'Aveyron avec le soutien à la fois de la Conf paysanne nationale et également de l'ADAR qui aide pour la transmission agricole.
L'invité de l'actu associative.
Et on est par téléphone avec Charles Pioffet de Naturellement Simple et membre de la Confédération Paysanne. Bonjour.
Bonjour.
Avant d'entrer dans le vif du sujet et de parler du salon à la ferme dans l'Aveyron, peux-tu nous parler un peu de ton activité à toi ?
Je suis coupeur de plantes aromatiques et médicinales. Depuis 15-16 ans.
Et tu travailles seul du coup ?
Je travaille avec ma femme. Voilà, on travaille à deux. On fait principalement des cultures de plantes. On fait pas mal d'accueil de public aussi, sur des stages, des visites et autres. Voilà, tout ce qui gravite autour de la plante, on essaie de le partager, entre guillemets.
Et le public pourra découvrir ta ferme lors du salon à la ferme ?
Oui, totalement. Alors nous, on est comme je disais, voilà, on fait pas mal d'accueil du public pendant la saison. Donc là, c'est, on va dire, ça peut nous donner le coup dans notre saison, le salon à la ferme. Et oui, après, nous, on a une démarche liée à la permaculture dans notre approche du vivant et de notre travail, entre guillemets. Et c'est aussi ça, par ce biais-là, qu'on veut faire découvrir notre ferme au public, quoi.
La visite, elle est prévue le 26 février et également le 5 mars ?
C'est ça même, ouais, samedi après-midi, ouais.
Et que vas-tu leur proposer donc pendant ces visites ?
Eh bien, voilà, de découvrir un petit peu comment nous, on articule notre ferme autour du vivant et comment on est autonome aussi, comment on gère nos autonomies au quotidien. Parce qu'on est autonome en eau, en électricité, on a une notion de responsabilité par rapport au vivant. Et voilà, de découvrir un petit peu toutes les techniques qu'on met en place, comment on réfléchit les choses, et comment on travaille et on vit, en fait, voilà, tout simplement.
Et t'attends beaucoup de monde ? Est-ce que ça avait déjà été fait aussi l'année dernière, ce salon à la ferme ?
Alors, ouais, ça a été fait l'année dernière déjà. Alors, nous, on n'avait pas participé l'année dernière.
Oui.
Beaucoup de monde, bah, tant mieux s'il y a beaucoup de monde. On les reçoit avec.
Et il y aura également d'autres visites de ferme de prévues pendant cette semaine, pendant cette quinzaine ?
Oui, sur l'Aveyron, je crois qu'il y a 9 fermes qui ouvrent, voilà, qui ouvrent leurs portes à diverses activités.
Oui.
Voilà. Pas plus, quoi.
Il y aura donc des fermes un peu partout dans l'Aveyron. Il y a donc toi sur le Lévezou.
Ouais, et moi sur le Lévezou. Bon, il y a Eric Darlet sur le Larzac. Il y a la ferme du Bousquet qui est dans le centre africain. Il y a aussi producteurs de miel qui sont aussi sur ça.
Donc pas mal de visites de prévues.
Il y a des projections, enfin il y a des goûters, il y a des pique-niques partagés, il y a des projections, voilà, découvrir et s'immerger vraiment dans le travail des paysans dans les fermes, quoi.
Et c'est une coïncidence de le faire en même temps que le Salon international de l'agriculture de Paris ?
Coïncidence, il n'y en a jamais des coïncidences. Hein. Non, ça avait été lancé l'année dernière, mais à cause du Covid qui avait annulé le salon de l'agriculture. Et justement, la conf avait envie de rapprocher les fermes des gens, déjà, et puis surtout d'autres fermes, parce que le salon de l'agriculture, d'autres genres de fermes paysannes, on va dire, qui sont représentées. Et donc, du coup, c'était de pouvoir les rouvrir et plus proche aussi des consommateurs, quoi. Et puis, on va dire, on est sur un territoire et on ne connaît pas forcément les petites fermes ou les petites exploitations qui travaillent correctement, qui sont autour de nous. Donc, c'est un peu ça l'idée, c'était de rapprocher, d'ouvrir ces fermes, quoi.
Oui, parce que vous n'allez pas montrer la même agriculture qu'au salon parisien.
Exactement, c'est ça. C'est un peu ça l'idée, quoi. C'est peut-être un contre-salon, on va dire. Mais voilà. C'est l'idée de montrer les choses, d'autres choses sont possibles, en fait, voilà, c'est un peu ça l'idée.
Et donc tu peux peut-être nous décrire un peu les grandes différences entre l'agriculture présentée à Paris et l'agriculture que vous allez présenter ici dans l'Aveyron, dans vos fermes ?
Bah alors, ouais, le salon à la ferme, ça permet donc aux citoyens de découvrir l'agriculture paysanne, d'échanger avec nous, les paysans, sur nos pratiques quotidiennes et directement sur la ferme, hein, parce que quand on est sur un salon, on est devant un stand ou des choses comme ça, on se rend pas vraiment compte de ce qui se passe derrière, quoi. C'est de partager aussi sur le projet politique de l'agriculture paysanne, que nous, on essaie de répondre à des urgences sociale et écologique notamment. C'est vraiment de les immerger dans une vraie réalité de la petite agriculture. Ce vers quoi il faut en fait, hein, voilà, d'arriver vers des fermes humaines, proches du consommateur, respectueuses de l'environnement, parce que cet environnement, on en a besoin pour travailler. Et c'est un non-sens d'avoir des grosses exploitations qui sabotent tout. Et donc voilà, c'est vraiment de ramener plus proche des gens, quoi. C'est un peu ça l'idée, quoi. Voilà.
Et parmi les grandes thématiques de ce salon à la ferme, il y a également la question de la transmission agricole. Oui, vous, c'était une installation, c'était pas une transmission.
Oui, ouais, tout à fait. Ouais, c'est une installation.
Eh bien, merci, Charles.
Voilà. Avec grand plaisir.
Et on le rappelle, tu es donc paysan herboriste à Naturellement Simple et membre de la Confédération Paysanne qui organise le salon à la ferme jusqu'au 8 mars, donc.
Oui, c'est ça.
Et on va aussi rappeler que le public pourra découvrir Ta Ferme ce samedi 26 février, ainsi que le samedi 5 mars de 14h30 à 16h30 à Saint-Laurent-du-Lévezou. Et les autres visites de ferme aveyronnais sont à retrouver donc sur les réseaux sociaux de la Conf Aveyron. Et on va poursuivre l'actu sur un plateau. Désolé pour les petits problèmes de son qu'on a pu avoir pendant cette interview. Et restez avec nous pour la touche culturelle, la touche musicale de cette émission. Et je vais donc laisser la parole à Hugo pour sa première chronique. C'est à toi, Hugo.
Waouh, bah salut Quentin, salut tout le monde. Alors dis-moi Quentin, est-ce que tu connais le groupe Bazar et Bémol?
Absolument pas, vas-y, Hugo.
Oula. Voilà. Eh bien, sans te le cacher, je m'en doutais. Et pour te rassurer, c'est tout à fait normal. Malgré leur talent indéniable, ce chic groupe de chansons françaises, jazz et swing n'est pas plus connu que le groupe Gueule d'Aminche. Et tu connais Gueule d'Aminche?
Non plus.
Non, eh bien, c'est normal, ils sont pas plus connus que Bazar et Bémol. Bref, on peut tourner longtemps en rond comme ça. Et moi qui suis un grand admirateur de Bazar et Bémol depuis des années, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas en parler dans ma première chronique musicale. Avec un peu de chance, ils viendront jouer dans mon salon après pour me masser les orteils et me remercier tout simplement d'en avoir fait des grandes vedettes. Bon, en attendant, je croise les doigts. Bon, vous l'aurez deviné, aujourd'hui, ma chronique musicale va parler de ce fameux groupe qui est Bazar et Bémol. Alors, Bazar et Bémol, c'est quoi? C'est trois musiciens, que dis-je, trois joyeux lurons, qui jonglent aussi bien avec les instruments qu'avec les mots. Ce sont surtout de vieux copains du lycée qui ont tous les trois choisi une vie musicale plutôt que de s'enfermer dans des bureaux comme l'exigeait leur diplôme en journalisme, commerce et biologie. Et ils ont fait leur début en faisant la manche dans la rue et dans le métro pour manger, en fait, tout simplement. Et ça, c'est du business model que j'aime bien. Et leur prestation exceptionnelle, j'ai mis 6 E hein, pour notifier exceptionnelle, ne passant pas inaperçu de par leur beauté, leur humour et leur jeu scénique, incroyable, je crois que mon objectivité est un peu biaisée, Quentin. Ils ont réussi à se faire pas mal de contacts de vidéastes, producteurs, graphistes, et ils ont été démarchés par des producteurs de concerts et festivals pour leur première scène. Et pour remplir la salle, rien de mieux que de rejouer dans le métro pour attirer les foules. Et ça c'est du business model que j'aime bien. Bon, ça c'était pour leur début. Maintenant ils en ont fait du chemin et surtout 3 albums autoproduits et des centaines de dates de concerts, 600 pour être précis. Pour ce qui est de la musicalité, parce que c'est vrai que je parle, mais à part l'histoire de ce groupe aussi intéressante soit-elle, quel est leur univers musical? Eh bien tout ce que j'aime, une dizaine d'instruments acoustiques, des guitares de toutes sortes, trompettes, caronnes, contrebasses et surtout, 3 voix qui chantent en harmonie avec un grand sourire aux lèvres. On y retrouve la finesse des textes de Georges Brassens, et là pour le coup c'est vrai, je ne suis pas biaisé, la bonne humeur de la rue qui est à nous, et le tout saupoudré d'une jolie touche jazzy à vous faire swinguer sous la douche. Et sans plus tarder, je vous laisse vous détendre les oreilles avec le titre Cuisto de leur second album Le Fruit du Bazar, sorti en 2015.
Je mange que du cœur, j'en veux des bien saignants, de toutes les couleurs, des tout menus et des bien enchères très chers. Faudra que tu te lèves tôt pour me boire à l'heure, sans un verre de Bordeaux, sans jouer le bonimenteur. Monsieur, je crois que les parts du gâteau qu'il me faut. La nuit d'un air surpris que le monde tourne. Je vois des têtes d'ampoule que je côtoie comme les mégots de leurs jolis mots qui allument la foule. Assis dans un salon, on mange vos cœurs, des yeux picassiettes amoureux, on fait que les clowns. Cuisto, je mange que du cœur, j'en veux des bien saignants, toutes les couleurs, des tout menus, des bien enchères très chers. Faudra que tu te lèves tôt pour me voir à l'heure, sans un verre de Bordeaux, sans jouer le bonimenteur. Monsieur, je crois que les parts du gâteau qui me font. Je suis pas un dur à cuire, qui me dit bonjour. J'ai connu pire, finir une vie en fanfare, sans avoir bu le verre de trop, un peu trop tôt. C'est une belle histoire, crois-moi. J'ai pas une gueule d'amour, mais je sais jouer des tours pour vous faire croire que je vole les tours, qu'on vole des tours. Cuisto, je mange que du cœur, j'en veux des bien saignants, de toutes les couleurs, des tout menus, des bien enchères, très chers. Faudra que tu te lèves tôt pour me voir à l'heure, sans un verre de Bordeaux, sans jouer le bonimenteur. Monsieur, je crois que les parts du gâteau qu'il me faut. Pulsations cardiaques font des claquettes. Y'a tout un cabaret dans nos petites têtes.
Merci Hugo pour cette découverte musicale. L'actu sur un plateau, c'est déjà fini pour cette semaine. Merci à nos invités, Nelly du café associatif Le Lieu Dit à Saint-Aff, pour parler de la fermeture administrative du mois de janvier, mais surtout de leur avenir. Et également Charles Pioffet de la Conf Aveyron pour annoncer le salon à la ferme, organisé sur le territoire jusqu'au 8 mars. Et merci également à Hugo et Richard qui nous ont fait découvrir leurs coups de cœur musicaux et littéraires. Dans quelques instants, vous pourrez réécouter cette émission sans modération en podcast sur le site de la radio radiolarzac.org. Et petite info avant de se quitter, il n'y aura exceptionnellement pas d'actu sur un plateau la semaine prochaine. Mais on se retrouve dans 15 jours.
L'actu sur un plateau.
La feuille de chou de Radio Larzac qui se cultive toutes les semaines.